Alors avant de regarder quoi que ce soit, je vais dire deux mots sur les GBU, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire ce matin. Donc, GBU, groupe biblique universitaire, qui existe en France depuis. Depuis? Vous avez dit? Ah, voilà, quelqu'un qui. C'est bien avant, bien avant. Oui, 43. C'était pendant la guerre. Mais la question suivante est encore plus difficile. Et on n'est pas tout à fait sûr de la réponse, mais quel était le premier groupe? Si vous avez bien écouté ce matin, je n'ai pas dit la réponse, mais on en a parlé. Aix-en-Provence. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit Aix, voilà. Donc c'est 43 à Aix. Mais on pense que Nîmes a commencé à peu près en même temps. Donc, là, aujourd'hui, en France, nous avons, enfin, ça fluctue un petit peu parce qu'il y a des petites villes où parfois deux ou trois étudiants se réunissent et puis bon, ça se trouve qu'ils sont en fin d'études en même temps, c'est pas facile de reprendre. Mais en général, on peut dire qu'on a presque 95 groupes, en fait, un peu partout en France. Donc, c'est quand même réjouissant. On est dans toutes les grandes facs et parfois dans les petites facs. Et cette année, on a un animateur à plein temps, ce qu'on appelle un secrétaire itinérant régional, dans chaque grande région de France. Hein, c'est pas les régions administratives. Dans combien de pays les GBU existent? Alors, si on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit une fois, on m'a affirmé plus d'une fois d'ailleurs, que c'est l'association qui est représentée dans le plus de pays au monde en dehors des Nations Unies. Parce que c'est dans 156 pays, quelque chose comme ça. Je pense, si j'ai le bon chiffre, c'est quand même quelque chose. Bon, enfin, ça ne nous concerne pas forcément en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les groupes? On essaie de faire deux choses. D'une part, d'apprendre à bien lire la parole de Dieu, à bien l'étudier, à bien le comprendre, et d'autre part, à évangéliser. Alors, parfois, ça peut être la même chose, parce qu'on essaie de faire des études bibliques qui sont accessible aux non-chrétiens en même temps. Donc on essaie de dire, si on étudie bien le texte, les gens vont comprendre. Donc, mais parfois ce n'est pas évident, donc après on fait d'autres événements d'évangélisation. Donc un événement d'évangélisation que l'on fait, c'est ce qu'on appelle Veritas, mais il y a deux types de réunions Veritas. Il y a ce qu'on appelle les dialogues Veritas, et là on fait des sondages sur le campus, par rapport aux objections à la foi en Dieu, et on dit, on va répondre aux cinq qui reviennent plus souvent. Donc, on fait trois soirées de suite, et avec deux intervenants chrétiens, on répond assez brièvement pendant un quart d'heure à une question, le premier intervenant 12 minutes et l'autre 3 minutes, et on a une demi-heure de questions-réponses. Puis après, on aborde la deuxième question, avec le deuxième intervenant qui cette fois-ci fait 12 minutes et le premier qui fait 3 minutes, et encore une demi-heure de questions-réponses. Et on trouve que là, il y a quand même pas mal de gens qui viennent à ce genre d'événement. Et puis on a un autre truc qui s'appelle le Forum Veritas, qui est beaucoup plus important que cela, où on essaie quand même, quelque part, à toucher le monde, si je peux dire, intellectuel français. Ça s'appelle Forum Veritas, et il y a toujours trois soirées de débat entre un chrétien et un non-chrétien. Donc chacun a 20 minutes pour présenter son truc, après ils discutent entre eux pendant 20 minutes, et après questions-réponses dans la salle. Et on commence à avoir un bon carnet d'adresses. À Nice, l'année dernière, on avait Luc Ferry comme des personnes qui ont débattu avec nous. Pascal Bruckner, pour certains qui connaissent, moi j'ai débattu avec lui, qui est un peu moins connu. Donc on commence à avoir des personnes, on avait André Comte-Sponville une fois aussi. Cette année, on le fait sur Paris, au mois de mars. Je crois que c'est le 12, 14 et 19 de mémoire. Bon, vous recevrez les informations qu'il faut. Et cette année, c'est sur le thème et l'homme a créé Dieu à son image. Et donc la première soirée, c'est pourquoi tant de religions, avec un philosophe et puis Jacques Buchaud de la fac de Vaud. La deuxième, c'est la science a-t-elle prouvé que Dieu n'existe pas. Donc on a un philosophe de science avec Lydia Jäger, qui est aussi de la République de Nogent. Et puis la troisième soirée, c'est qui a inventé Dieu. Et donc on aura un psy chrétien et un psy non chrétien, Daniel Siboni, pour ceux qui connaissent le nom chrétien, qui vont parler de ça, avec comme grand témoin Henri Blocher aussi. Donc voilà, on aura... et c'est Henri d'ailleurs qui avait débattu avec Luc Ferry l'année dernière. Donc on cherche à avoir un impact dans le monde de la pensée, si on veut, ce que nos petits gébus de fac ne peuvent pas avoir, c'est pas leur rôle. Donc on essaie d'avoir les deux attaques. Le groupe qui évangélise, qui s'édifie, et puis d'autre part, un certain, oui, on cherche à rendre plus plausible, en quelque sorte, notre foi. Et une autre chose qu'on fait pour cela, ce sont nos réseaux professionnels. On a commencé avec le RSE, le réseau des scientifiques évangéliques. Donc on est à notre quatrième édition maintenant, on essaie de publier chaque fois ce qui est dit. Donc ce n'est pas que pour les scientifiques, les étudiants dans les filières scientifiques peuvent venir aussi, hein. Donc il y a pas de, c'est même bien. Au mois d'octobre de l'année dernière, on a lancé le RESH, le réseau évangélique et sciences humaines, donc tout ce qui est philosophie, sociologie et tout ça. Au mois de novembre, on a lancé ce qu'ils appellent maintenant le REPE, le réseau évangélique des professionnels de l'enseignement, les profs, autrement dit, en clair. Et donc, c'est la même chose. Les étudiants qui s'intéressent à ces thèmes peuvent être là. Et le 24 mars, à Paris, on lance GBU Santé, avec une journée sur l'euthanasie, avec un théologien, un juriste, des praticiens, un aumônier, les hôpitaux évangéliques aussi. Donc c'est quand même une grande question, l'euthanasie, qui revient tout le temps sur la sellette. Donc on va essayer pendant une journée à bien examiner cette question-là. Je suis assez sensible parce que j'ai un fils qui est médecin aussi. Donc je sais un petit peu le genre de questions que l'on peut avoir. Voilà. Quelques mots sur le GBU. J'ai laissé traîner sur la table de fond quelques dépliants sur le GBU et un flyer sur la journée médecine, GBU Santé aussi. J'ai quelques flyers là. Ok, je pense que j'ai suffisamment dit. À moins que quelqu'un ait une question sur le GBU. Sur Paris, j'ajoute, la grande difficulté dans Paris intramuros, c'est de réunir du monde, parce que dans les facs, il peut arriver qu'il y a quelques étudiants et qui n'en trouvent pas de moment, parce qu'ils ont les cours en même temps ou à des moments différents, enfin, etc. Donc, à la rue Saint-Pente, donc dans le 6e, qui est notre siège, on fait 3 ou 4, je crois que c'est 3 cette année, créneaux, qui peuvent permettre à des gens de venir, même de différentes facs, s'ils peuvent pas se réunir dans leur fac. Donc, mais tout cela est sur le site qui est facile à trouver parce que c'est gbu.fr. Donc, les GBU France. Des questions? C'est bon? Tout ce que vous voulez. C'est le moment rêvé de tout connaître sur les GBU. Voilà. On fait aussi une série de publications qui s'appelle Questions suivantes. Donc le tout dernier, non, c'est pas tout à fait le tout dernier, l'autre qui vient de sortir. C'en est un que j'ai écrit sur Blaise Pascal, donc j'ai quelques exemplaires là. C'est vraiment un livre d'évangélisation. Parce que beaucoup de gens connaissent Blaise Pascal en France. On peut assez facilement donner un livre sur lui. Et puis il explique l'évangile par ses propres mots. Parce qu'en fait, le livre est principalement constitué de lettres que je lui envoie. Donc, j'étais assis dans mon salon et je voyais Notre-Dame depuis mon salon. C'est comme si Au mois de juin, quand j'ai écrit ça, on s'envoyait des mails tout le temps. Bon, enfin, mais c'était pas ça, j'avais son livre. On dit, mais c'était comme si. C'était vraiment. Et c'est un gars extraordinaire, Blaise Pascal. Je donne une conférence sur lui à Bruxelles, donc un jour. Voilà. Ok. Ça, c'est le GBU. Je voulais juste simplement vous montrer ces quelques chiffres. Peut-être vous les connaissez déjà, mais je trouve très intéressant de voir que le nombre de chrétiens évangéliques a beaucoup grandi en France au cours des 60 dernières années. Il y avait que 50 000 en 1950, 100 000 en 60, 200 000 en 75, 300 000 en 90, et on estime aujourd'hui, selon les études, mené très sérieusement, qu'il y en aurait 460 000. Ce qui est plus facile à compter, ce sont le nombre d'églises évangéliques, donc toutes dénominations confondues, où il n'y avait que 249 en 1950, 769 en 1970, et aujourd'hui 2068. Mais on m'a fait savoir que la semaine dernière, qu'en fait c'est maintenant c'est 2069. Okay. J'ai déjà changé. Bon, enfin, restons avec ça. Je peux pas le changer tous les 10. On dit qu'il y a une nouvelle église tous les 10 jours, donc je vais pas changer mon PowerPoint tous les 10 jours. Ce qui est intéressant avec cela, c'est que l'on voit que on prend notre place dans le pays à toutes sortes de niveaux. Mais pour moi, le grand défi qui reste, bon, il y en a, pour moi, il y en a trois, mais je peux pas vous parler des deux premiers. Le premier, c'est le défi du monde rural, parce qu'actuellement, il y a peu d'églises évangéliques dans le monde rural. On est plutôt dans les villes. Le deuxième défi, pour moi, c'est que les églises existantes continuent de progresser, parce qu'en fait, c'est une chose d'implanter. C'est bien, j'ai fait 3 implantations d'églises, c'est enthousiasmant, c'est bien, etc. Mais les 2068 églises qui existent ou qui continuent à se développer sont plafonnées trop. Mais le troisième défi pour moi, et c'est pour cela que on est un peu là cet après-midi, c'est de veiller à ce que l'on touche toujours le Gaulois. Donc, quand je dis le Gaulois, le Français de souche, parce que pour toutes sortes de raisons historiques, le Français de souche a toujours été assez réticent par rapport à l'évangile. Ça ne va pas en s'améliorant. Je vous ai parlé de la postmodernité ce matin. Donc voilà. Chacun de nous, quelle que soit son origine, doit chercher mais comment on va toucher le français de souche. Je pense que c'est vraiment très important. En disant cela, je ne remets nullement en question nos églises multiculturelles. Donc, Rodrigue était avec moi à Blanc-Mesnil. On avait littéralement les 4 quarts, parce qu'on avait entre un quart de Français de souche, un quart d'Antillais, un quart d'Africain et un quart de Tamoul. C'était intéressant. Et c'est à la gloire de Dieu, parce qu'en fait, il nous réconcilie pour faire son peuple. Donc ça, je pense que c'est vraiment un très très bon témoignage de ce que le Seigneur fait. Et je ne voudrais pas que ce soit le contraire. Mais chacun de nous, on doit quand même dire, mais comment on va pouvoir toucher ces fameux Français de souche qui restent réticents? Donc voilà, c'est un peu le sujet que j'aborde cet après-midi. Comme j'ai dit, je ne vais pas donner plein de recettes, hein, c'est pas ça, je vais donner quelques exemples. Moi, ce que je veux, c'est de voir de façon conceptuelle comment on peut faire pour dire, après, bon, chacun, chaque église, il faut que l'on sache, mais comment on va faire dans leur coin, parce que si j'ai dit, voilà, comment on a fait, mais je voulais montrer quelque chose tout à l'heure dans notre église, à mon avis, ça ne marcherait absolument pas ici, mais ça marche dans Paris, par exemple. OK? Voilà, j'ai déjà parlé de ça ce matin, c'est un petit rappel que la mission doit être un processus dans un cadre relationnel. Ce que je n'ai pas dit ce matin, mais je le dis maintenant. Si par exemple vous étiez en voiture, conduisez la voiture, ou quelqu'un qui fait le stop, est-ce que vous arrêtez? Ou est-ce que vous dites, voilà, il va me couper la gorge et puis il va vendre mon iPhone. Non, on hésite à cause de cette méfiance. Et n'oubliez jamais qu'en France, on a 11 commandements. Hein. Le 11e, c'est méfie-toi. Donc ça, c'est notre pays. Hein. Mais vous êtes en voiture, deuxième scénario, vous voyez votre voisin. Vous voyez votre voisin qui est là, qui fait du stop. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous arrêtez. Vous dites, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Okay. Parce que la relation est déjà là. Donc c'est par la relation qu'on va petit à petit aussi faire tomber un certain nombre de préjugés, de méfiances, etc. Puis j'avais parlé rapidement de la visibilité dans l'espace public, parce que si le relationnel est important, il faut que cette plausibilité, en quelque sorte, soit là pour dire on fait partie aussi du paysage. Et pour moi, depuis au moins 15 ans maintenant, je me suis donné un objectif dans l'implantation d'église qui est complètement irréaliste. Hein. C'est utopique, ça n'arrivera pas, mais au moins ça change un peu ma façon de voir les choses. J'ai dit, ce que je voudrais, c'est que les habitants de ma ville trouvent aussi normal de faire un tour à l'église évangélique que d'aller au supermarché ou au cinéma. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire parce qu'il y a des blocages spirituels, hein, c'est pas ça. Mais ça oriente un peu ma façon de voir comment je vais être présent dans la ville, comment, quand les gens rentrent dans l'église, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'on explique suffisamment bien ce qui se passe, etc. Donc, tout ça, ce sont des questions qu'on peut se poser, surtout pour le français de souche. J'ai une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un pasteur de Nîmes qui me l'a dit. Quelqu'un qui est venu à l'église pour la première fois, donc il dit, mais qu'est-ce que tu as pensé? Et, oh, j'ai beaucoup aimé les chants et tout ça, c'était vraiment bien. Mais j'ai pas compris pourquoi vous avez chanté un chant contre Dieu. Chant contre Dieu. Oui, c'était Abba, Père. Donc, mais si on n'explique pas Abba, les capitalistes, si on n'explique pas le français de souche, je ne sais pas ce que ça veut dire, Abba. Nous, on sait, parce qu'on est chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette explication continuelle. Par exemple, je cherche à le faire. Je dis pas que je le fais toujours, mais dans mon église, au moment où les enfants partent, je dis souvent, par exemple, maintenant, les enfants vont partir avec leur moniteur, monitrice, pour un moment d'histoire biblique et de bricolage. Parce que si je dis ils vont aller à l'école de dimanche ou quelque chose comme ça, ils savent pas ce que ça veut dire. Donc, j'essaie d'expliciter. Bon, ok, bon, ça c'est l'aspect public et apologétique approprié, je ne vais pas en parler. Je voudrais surtout cet après-midi, dans le temps qui nous reste, parler de ces quatre passerelles. C'est pas la peine de les noter parce que je vais revenir sur chacun. Brièvement, notre condition humaine, l'Église en tant que nouvelle humanité, la spiritualité et le sens de l'histoire. Donc on va essayer de passer une petite demi-heure sur chacun à peu près. Voilà ça. Donc, passerelle numéro un, notre condition humaine. Si on cherche une passerelle envers les autres, il y en a une que personne ne peut nier, c'est que moi je suis un être humain, lui c'est un être humain. C'est peut-être tellement évident, j'ai peur de vous le dire, comme si vous dites c'est une banalité, mais c'est sûr, on a ça en commun, on est des êtres humains. Donc, c'est le point de départ quelque part. Parce que même si il veut pas entendre parler de ce que je crois dans un premier temps, au moins je sais qu'il vit dans le même monde que moi, qu'il fait face aux mêmes problèmes, aux mêmes questions, enfin, etc., etc. Donc, je propose trois pistes à l'intérieur de cette passerelle, notre condition humaine. Et la première, c'est que nous devons être solidaires en tant que chrétiens avec les autres. Le tout premier commandement, hein, aime ton prochain comme toi-même. C'est pas aime le chrétien, mais aime ton prochain comme toi-même. Et cette solidarité-là est extrêmement importante, parce que, en fait, ce que je vais dire maintenant est vrai pour les quatre passerelles. Ce que j'aime bien avec ces passerelles, personnellement, c'est qu'on a toujours deux pour le prix d'un. Ça veut dire que plus on est vraiment chrétien, plus en même temps, c'est une passerelle pour l'évangélisation. Donc, on n'a pas à décider c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, dans ce sens, en tant que chrétien, je veux aimer mon prochain comme moi-même. Et je trouve, en même temps, c'est à la base de l'évangélisation. Donc, j'ai double prix d'un. Plus j'avance avec le Seigneur, plus en même temps, je devrais être capable, donc, d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle. Donc, voilà. La solidarité humaine, je donne un exemple. C'est l'exemple que j'avais donné, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai dit peut-être ça marcherait pas ici, mais en Paris, dans Paris, c'est bien. Notre église, on a ouvert une boutique de commerce équitable qui s'appelle Equiteo. Donc, vous voyez le logo qui est là avec une Bible et du café, parce que c'est équitable et théologique, parce que on a aussi des Bibles et des livres chrétiens, mais beaucoup de magasins et d'entreprises terminent en EO aujourd'hui, donc ça fait bien. La poste, c'est Destineo, enfin Fortuneo, je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Donc, Equiteo. On a ouvert cette boutique, donc voilà la petite boutique à l'extérieur. C'est pas grand, hein, c'est Paris. Il y a quoi, un peu plus de 30 mètres carrés. Et voilà l'intérieur. Mais c'est très joli, c'est très joli. Donc il y a deux parties. Donc en première partie, on met surtout tout ce qui est commerce équitable, à la fois alimentaire et artisanat. Et un peu plus dans la deuxième partie, on a des livres, des Bibles, etc. Et puis à droite, vous voyez, et des chaises, parce que si quelqu'un veut discuter, on propose la dégustation d'un café équitable. Donc on a le moyen d'être un peu convivial avec cela. Pourquoi c'est très très utile à Paris? Bon, on a peut-être plus de monde qui passe dans les rues qu'à Aubergenville. Et puis, en même temps, les Parisiens, bon, c'était le grand défi pour nous. Comment les contacter? Parce qu'ils partent au travail, ils rentrent tard, ils sont dans leurs appartements, fermés à double tour, même à double code, quelquefois. Et le week-end, ils s'en vont à leur résidence secondaire, certains en tout cas. Comment on va faire? Mais on s'est rendu compte que beaucoup font leurs courses dans le quartier. Ils n'ont pas forcément de voiture, pour la simple raison que c'est pas facile de stationner la voiture. Et beaucoup habitent, vivent seuls. J'ai entendu ce matin sur France Info, aujourd'hui, une personne sur sept habite seule en France. C'était le double par rapport il y a 10 ans. Donc, ces gens-là, ils cherchent aussi un certain contact. Alors, ce qui est bien, c'est que le magasin est là, c'est accueillant, on peut discuter avec les gens, ils viennent faire des courses. C'est assez tendance d'être dans l'équitable, etc. Bon. Tous les supermarchés vendent 2 tablettes de chocolat pour montrer qu'ils sont équitables. Enfin, c'est un peu la poudre aux yeux. Enfin, tout ce qu'on a, c'est équitable. Donc voilà, ça marche bien pour nous. C'est une façon d'être solidaire avec les autres. Alors que quand on était au Blanc-Ménil, ma femme était beaucoup plus engagée avec les Restes du Cœur. Parce que là, ça marchait bien au reste du cœur. Donc chacun va trouver sa façon de faire. Mais attention, la solidarité, c'est aussi, c'est pas simplement créer une association, c'est s'intéresser aux autres. Sortir de sa petite bulle pour s'intéresser aux autres, pour voir quand ils ont besoin d'un coup de main, d'une voisine un peu plus âgée qui peut faire les courses ou quelque chose comme ça. Ou comme je dis souvent aux Jébusiens, vous allez dans l'amphi, mais vous voyez quelqu'un qui est toujours assis tout seul, mais mets-toi à côté, parle avec cette personne serait très contente d'avoir un peu de contact avec quelqu'un. Donc, en tout cas, la première chose qui nous donne un certain contact avec les gens, c'est pas la solidarité humaine, c'est pas toute action humanitaire. Parfois, on peut organiser un voyage humanitaire, même partir avec des non-chrétiens. C'est bien. Parce que là, on aura des... Personnellement, c'était pas l'humanitaire, mais je n'ai jamais eu autant d'occasions de parler de l'Évangile que lorsque j'étais encore à Nancy. Je fais partie de l'association de jumelage entre notre ville et une ville en Allemagne. Parce qu'en fait, tout le long dans la voiture, et tout le temps qu'on était là, on me posait plein de questions tout le temps. Et ils disaient, oh, c'est dommage qu'on peut pas faire ça à la maison. Mais une fois à la maison, maintenant, ça s'est un peu estompé. Donc, faire quelque chose avec les non-chrétiens est utile. Ok, ça c'est le premier point sur la condition humaine. La deuxième, c'est quelle est notre identité humaine. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quelle est notre identité humaine? Je pense que beaucoup de gens se posent énormément de questions. Qui sommes-nous en tant qu'êtres humains? Entendu, je n'ai pas eu la preuve, mais on m'a dit que le Parlement espagnol a voté une loi comme quoi les grands singes devaient être compris dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais où mettre la barrière, hein? Où mettre la barrière? Je vais vous lire rapidement un truc que j'ai trouvé sur Internet d'un prof de philo. Il dit, au fil des deux siècles passés, la philosophie s'est dépouillée de la foi chrétienne. Mais elle n'a pas renoncé à l'erreur fondamentale du christianisme qui est de croire que les humains sont radicalement distincts des autres animaux. Ils ont abandonné une foi irrationnelle en Dieu au profit d'une foi irrationnelle en l'humain. Intéressant, hein? Bon, il dit, quel sens pourrions-nous trouver si on arrêtait ça? Et c'est vrai que l'on ne sait pas qui on est, en fait. Et beaucoup de débats tournent autour de ça. Qui sommes-nous, tant qu'être humain? Et personnellement, je suis absolument convaincu qu'on ne peut pas comprendre l'être humain sans comprendre deux choses en même temps. L'être humain créé à l'image de Dieu, donc avec la valeur, et pécheur, parce que le péché est rentré dans le monde et chacun pour sa part est pécheur. Donc ça veut dire que on vit avec les deux choses. Et il n'y a absolument aucune façon de comprendre le monde sans cela. J'ai mis une belle citation de Blaise Pascal dans mon bouquin. Il a parlé de ça, du fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais que le péché est entré dans le monde. Il a dit ceci, je cite de mémoire, « Nulle secte des philosophes ne l'a dit, donc personne n'a raison. » J'aime bien le « nulle secte de philosophes ». Parce que si on ne comprend pas ça, on est dans l'impossibilité de décider quoi que ce soit. Quand on regarde le monde, est-ce qu'on pense que le monde est normal ou pas normal? Toute philosophie humaine doit penser quelque part que le monde est ce qu'il est, donc c'est normal. Parce que sur quelle base peut-il dire que ça devient être autre? Mais nous, en tant que chrétiens, on a toute liberté de dire « le monde n'est pas normal ». Le monde n'est pas normal. Pour le dire d'une autre façon, je prends mon stylo. Oui, je trouve que ça tombe chaque fois. Une loi, la gravitation, la pesanteur, qui est une loi qui décrit la réalité. Okay? Et personne ne va dire, bah, ça ne devrait pas être comme ça. C'est comme ça. Mais je vais lire, par exemple, dans un journal, j'ai pas les chiffres, je me souviens quand j'étais en Seine-Saint-Denis, je l'avais entendu, du pourcentage de femmes qui souffraient d'abus, de violences, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut faire quelque chose. Mais si on est scientifique et on étudie, et on dit, voilà, le stylo tombe 100% des fois, il y a 30% de femmes qui souffrent des violences, je décris. Sur quelle base je peux dire que ça devrait être autre? On sait que ça devrait être. Pourquoi? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc les chrétiens ont la raison pour laquelle on le refuse. Mais ceux qui ne le sont pas sont complètement coincés avec cela, mais sans se rendre compte. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, on peut revenir à ça, sinon vous pouvez poser des questions. Mais en tout cas, notre identité humaine, on ne peut pas la comprendre sans Dieu créateur et sans le péché qui rentre dans le monde. Ce qui fait que chaque être humain, on va pas le mépriser, quelle que soit cette personne. C'est créé à l'image de Dieu. Mais je ne suis pas utopique en disant on n'a qu'à changer quelques lois et tout va aller pour le mieux. Donc, ça, c'est important. Et quand on arrive à faire passer ça, moi, je trouve que les gens disent beaucoup moins souvent, ah, s'il y avait un bon Dieu, pourquoi la souffrance, etc. On tourne l'argument dans l'autre sens. Sans le bon Dieu, comme on dit, il n'y a aucun sens. Aucun sens. Donc, ça, c'est une deuxième partie de notre condition humaine. La troisième partie, c'est notre vécu personnel. Et je suis convaincu que la conversion, publiquement, c'est deux choses. C'est d'abord rétablir une relation avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de Christ. Donc, ceux qui sont loin, ceux qui sont près, les juifs et les païens, enfin, etc. Donc, voilà, on est réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Mais la deuxième partie, c'est que cette image de Dieu ternie par le péché, Dieu est en train de la restaurer. Je vous ai pas donné des versets bibliques, on peut le faire après. Je pense que ça va peut-être venir dans une étude tout à l'heure, sinon j'y reviens. Dieu est en train de restaurer son image en nous, ce qui veut dire que, en gros, les chrétiens doivent être les plus humains de tous les humains. Ça veut dire qu'on va s'intéresser aux autres. On va pas... on va pas penser que être spirituel, c'est le contraire d'être humain. C'est tout le contraire. Je me souviens une fois, avec ma femme, on était dans une église avant le moment de PowerPoint pour les chants. On est rentré, personne nous a dit bonjour. Personne nous a dit donné un cantique. Et pendant tout le culte, on était là, on pouvait pas chanter, alors que les personnes de chaque côté chanter à tue-tête avec leur cantique sans jamais penser à nous proposer de partager ou je ne sais pas quoi. Mais c'est totalement inacceptable. Ça veut dire qu'on n'est pas humain, tout simplement. Alors pourquoi être spirituel quand on ne peut pas être humain à ce point? Donc la restauration de l'image de Dieu en nous, ça veut dire qu'il faut que l'on soit humain dans nos réactions. On va, selon l'apôtre Paul, pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alors, si quelqu'un est en train de pleurer, et cette semaine j'étais à un enterrement, un collègue qui a perdu sa fille, on va pas aller pour dire allez c'est bon, non, on pleure avec. Hein, qu'est-ce que vous pouvez dire à part ça? Il y a un moment pour tout. Seulement, en tant que chrétien, on ne perd pas l'espérance en pleurant. Ça, c'est la différence. Et je pense qu'en se réjouissant, on n'oublie pas non plus, peut-être que la personne en face de nous vient de vivre quelque chose. Donc, il faut être sensible pour cela, être humain aussi dans nos relations avec les gens. Donc tout cela, je pense que ça fait partie de notre sanctification, hein, la restauration de l'image de Dieu en nous, ce qui fait que cette première passerelle est à la fois nos progrès spirituels, mais aussi le moyen de toucher les autres. Parce qu'on est vrai avec eux, on peut expliquer pourquoi, et on le montre par notre solidarité réelle. Voilà. J'aimerais qu'il y ait un petit peu d'échange, hein. Je ne veux pas faire un discours de 2 heures, je m'appelle pas Castro. Donc, si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette première... passerelle, notre condition humaine, soit pour quelque chose que vous n'avez pas compris, ou pour proposer d'autres exemples de ce que vous avez vu, ou... Quelqu'un qui... Ok. C'est la première personne a du mal, la deuxième personne peut poser la question. Tout de suite. Faire. Ok, c'est bon. Ok. Oui. J'aurais pu dire notre identité en crise pour le point 3, c'est-à-dire que après notre conversion, c'est la restauration de l'image de Dieu en nous. Parce qu'en fait, on est amené à ressembler à Christ. Romains 8 le dit, prédestiné à être à l'image de Christ. Donc, il est à la fois... j'anticipe un peu ce que vous allez faire tout à l'heure. Jésus est l'image de Dieu, dans ce sens, à la fois parce qu'il révèle le Père, mais il révèle ce que c'est qu'un être humain. Donc, les deux choses en même temps. Mais je ne vais pas dire plus parce que vous avez fait une petite étude.
L'humain et le spirituel, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été comme le monde, blablabla. Mais trop souvent, chez les évangéliques, on remarque qu'il y a les gens spirituels et ceux qui ne le sont pas. Et on, par spiritualité, effectivement, on ne va pas saluer les gens, on ne va pas s'occuper, etc. Parce que ce n'est pas des choses spirituelles. En fait, on oublie que ce qu'on vit au quotidien, c'est spirituel.
Tout à fait.
Notre comportement au travail, c'est spirituel, etc. C'est un petit peu justement, on est spirituel toute la journée, 24 heures sur
24. Ouais. C'était marrant parce que quand j'étais dans le 9-3, les pasteurs avaient organisé une rencontre avec le président du conseil général. Bon, il y avait toute une pastorale pour en parler. Et puis, à un certain moment, quelqu'un proposait, parce qu'on ne trouvait pas de salle, que ce soit dans un hôtel. Et puis, un des pasteurs a dit, « Oh non, ça c'est le monde !» Et puis celui qui était à côté de moi dit, je me demande où il achète son pain. Parce que finalement, on est dans le monde et Paul le dit dans Corinthiens, hein, s'il ne s'agit pas de quitter ce monde, c'est pas ça. Le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc c'est tout autre chose que le contact avec les autres. Ouais.
Mais est-ce que c'est pas aussi un piège? Parce que justement, c'est vu qu'il faut bien se connaître. Souvent, je vois ça, y compris, je l'ai vu sur moi. On entend un message qui nous enthousiasme, quand on veut rentrer dedans, on s'y lance de toutes nos forces, et puis quand les difficultés arrivent, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on n'a pas de fondation, on baisse les bras, et finalement, c'est pire que si on n'avait rien fait.
Oui, je vois pas trop le rapport avec ce que j'ai dit. C'est vrai ce phénomène, mais la sanctification. Donc ça c'est le mot technique, si on veut, pour dire que bon, on est justifié par la grâce. Hein, ça c'est paf. C'est on est ou on n'est pas justifié. Donc ça c'est le début de notre vie. À la fin de notre vie, il y a la glorification. Soit on est auprès du Seigneur. Parce que c'est la mort ou la fin du monde, le jugement. Mais entre les deux, notre conversion et la fin de notre vie, il y a toute une vie de sanctification. Et la sanctification, c'est justement un processus. Et il n'y a pas d'ascenseur, il y a un escalier qui monte. Hein, donc c'est comme ça. On peut des fois vivre quelque chose qui nous aide à monter un peu plus vite, mais pas trop d'étages à la fois quand même. Sinon, on risque de... Donc, ça, c'est le phénomène normal de chaque chrétien, d'avancer, de progresser dans la sanctification, ce qui veut dire ressembler à Jésus. Et Jésus, c'est l'homme parfait. Donc, je reviens à ça. Oui. OK. Oui. En fait, j'avais dit non pas que l'homme doit être le plus solidaire de tous, le chrétien, le plus humain de tous. Ça, c'est le mot que j'avais dit, pas le plus solidaire. Parce que la solidarité, parfois, on peut pas tout faire. Il y a des limites, jusqu'où on va, c'est pas toujours facile. Mais je pense que chacun peut avoir une certaine... engagement quelque part, mais c'est aussi des fois des occasions qui arrivent. Il y a 15 jours, j'étais dans le métro à Paris, je montais l'escalier vite, et j'ai vu une vieille dame qui peinait à monter ses sacs, j'ai rien fait. Et vraiment, je me suis repenti le soir, dans le bon sens, c'est-à-dire que tu aurais pu. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais bon, je pense que si on est honnête, on passe à côté de beaucoup d'occasions qui nous coûtent pas cher, mais qu'on peut simplement aider les autres un petit peu, dire un petit mot, dire, faire quelque chose. Hein. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut toujours avoir un grand investissement associatif ou quelque chose comme ça. On peut, mais il n'y a pas que ça. Oui. Bon, la première chose, c'est ouais. Apologétique. Bon, je me souviens une fois, je faisais un stand biblique à Blanc-Ménil, et puis un vieux syndicaliste qui s'est approché de moi, était retraité, il dit bon, je suis très engagé dans les syndicats, mais ça n'a rien changé, hein. Donc, et puis, mais vous, il dit, c'est pas mieux, ça fait 2000 ans. Ça n'a rien changé. Bon. Et je dis, mais si, ça a changé quelque chose, hein. Et là, quoi, je dis, ben, maintenant, il y a des millions de personnes qui ont la vie éternelle. Et ils s'attendaient pas à cette réponse-là. Donc, parfois, il faut le dire, parce que les gens ne savent pas, en fait, que ça, c'est notre espérance. Mais donc, mais pour revenir aux collègues, hein, moi, chacun doit savoir comment il fait dans son entreprise. Moi, je suis personnellement convaincu que dans la mesure du possible, il faut toujours communiquer quelque part qu'on est chrétien. Même si on dit rien de plus, ou s'il n'y a rien qui se passe, c'est le premier truc. Et ça, on peut le faire sans que ce soit marqué sur son front. Hein. Donc, parce que sinon, les gens ne savent pas pourquoi on a ces valeurs, pourquoi on a certains trucs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsqu'il y a des débats, même politiques, hein, parce que là, on rentre dans la campagne électorale, de pouvoir dire, par exemple, moi, je ne pense pas qu'une loi va changer le comportement des gens radicalement, ça peut aider, mais il y a pas que ça. Donc, le dire. Il faut voir jusqu'où on peut aller après. Ça dépend. Bon, je pense que il y a plein de choses que l'on peut dire qui, comme Colossiens dit, que vos paroles soient de sel, voilà. Donc, ça veut dire pour moi, c'est que celle donne du goût, ou même, si je le dis d'une autre façon, vous connaissez les Pringles, hein, tout le monde connaît les Pringles, qui est capable de manger un seul? Donc, ça veut dire que, là, des petits chips en quelque sorte, ça veut dire que si on donne une réponse courte, qui donne soif à l'autre, il va poser une autre question. Par contre, si enfin, devant la machine à café, la question dit, mais tiens, tu es chrétien, qu'est-ce que tu penses? Et tu commences avec la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en passant par Calvin. Et une demi-heure après, il dit, c'est la dernière fois que je lui pose une question. Donc, il faut avoir la sagesse de savoir jusqu'où on peut aller par petits bouts pour pouvoir l'intérêt de l'autre, je pense.
Pour revenir à la question de l'être humain, le fait d'être humain, c'est aussi spirituel. Est-ce que c'est pas l'héritage grec qui dit que faut séparer le corps qui est mauvais de l'âme?
Ouais.
Parce que je vois des évangéliques, je connais des frères qui, quand ils me disent, hein, si dans la rue, puis s'il y a un catholique, qui savent qu'il est catholique, ils changent de croix. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est l'ennemi, parce qu'il n'a pas trouvé la foi chez le catholicisme. Donc, on sent qu'il y a une séparation. Mm-hmm. Très net, souvent chez les évangéliques,
sont très primaires. Oui, je suis d'accord. Hein. Donc, j'ai une phrase que j'ai retenue d'un théologien il y a quelques années. Je regrette que je n'ai pas noté qui. J'ai trouvé très intéressant quand il dit « Il faut assumer la tension, la tension entre deux mots, hein, entre notre solidarité humaine et notre différence théologique. Parce qu'il ne faut pas quitter notre solidarité humaine, mais il ne faut pas non plus changer ce que l'on croit. On doit garder ce qu'on croit, mais sans quitter notre solidarité humaine. Et donc, c'est une tension, comme tout ce qu'on fait dans ce monde déchu. Ces tensions, on n'aura pas dans l'éternité. Mais tant qu'on est dans ce monde, tout ce qu'on fait aura toujours en tension entre deux trucs. Tout le temps, tout le temps. Donc voilà, il faut les deux choses, je pense. Et c'était une des hérésies du christianisme depuis le premier siècle, le gnosticisme, qui disait que la matière est mauvaise et l'esprit est bon. Hein. Donc ça, c'est absolument pas biblique du tout. Du tout, du tout, du tout. Parce que Dieu nous a créés, nous a donné notre cœur, donc c'est pas mauvais. Mais eux, ils ont poussé jusqu'à dire, mais si c'est comme ça, Jésus n'était pas vraiment le Fils de Dieu non plus, parce que le Fils de Dieu ne peut pas vivre dans un corps mauvais. Donc ils ont poussé l'hérésie très loin, finalement. Donc, c'est bon? Alors, deuxième étape, c'est vous qui allez travailler. Je vais vous demander de vous mettre dans des petits groupes, admettons 3, 4, et de faire une petite étude publique. Donc j'ai des questions, et c'est surtout par rapport à la question de notre condition humaine, mais également de l'Église, donc le peuple de Dieu. La nouvelle humanité, c'est ça que l'on est. Bon, je vais vous donner les papiers. Ok, j'espère que ce n'était pas trop difficile, je ne pense pas. Mais donc la première série de versets approfondissent Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Donc comment pourrions-nous connaître Dieu si Dieu n'était pas venu à notre rencontre? Donc il s'est incarné, c'était le sens de Noël, il a vécu parmi nous, il a donné sa vie, il est ressuscité. Donc personne n'a jamais vu Dieu, Dieu il est grand, on a chanté ce matin, il a créé les galaxies, on a à peu près, si je m'en souviens bien, à peu près 14 galaxies par être humain dans ce monde, je n'ai pas dit étoile, hein, je dis galaxies par être humain. D'après ce que disent les scientifiques, donc Dieu est grand, mais il est venu sur notre planète. Il est venu sur notre planète. À un certain moment, j'aimais bien le dire de la façon suivante, ça n'existe plus autant maintenant, mais dans le temps, avant Internet, on avait les bottins téléphoniques avec les pages jaunes, et c'était une horreur, parce qu'on ne trouvait jamais ce qu'on voulait. Et donc, je me souviens une fois, j'avais mal aux dents. J'ai cherché dentiste, mais il n'y avait pas. Parce qu'il fallait regarder chirurgien, dentiste. Mais au début, il y avait un truc qui disait « pour dentiste, voire chirurgien dentiste ». Voilà. Et ça, c'est notre théologie. « Pour Dieu, voire Jésus-Christ ». Parce que c'est ça, en fait. Personne n'a jamais vu Dieu, mais comme Jésus l'a dit, « celui qui m'a vu » a vu le Père. Donc voilà, c'est la première série de versets. La deuxième est quand même intéressante, parce qu'en fait, beaucoup moins de monde savent que « personne n'a jamais vu Dieu » revient une deuxième fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est dans 1 Jean 4, 12, « personne n'a jamais vu Dieu, quand nous nous aimons les uns les autres, Dieu se révèle parmi nous ». Ça veut dire que Dieu est visible en quelque sorte dans son corps, et l'Église est le corps de Christ, et surtout quand nous nous aimons les uns les autres. Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et toute la suite des versets, c'était ça, parce que si la première partie, la première série de versets, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus qui se révèle, qui révèle le Père, dans la deuxième série, c'est Jésus qui révèle ce que devrait être un être humain. Donc, parce que quand on parle de Jésus comme image, là, ça fait tilt par rapport à créer l'image de Dieu dans Genèse 1, verset 27, et Romains 8, 29, que j'avais cité Alors, dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais ce qui est important à noter là aussi, partout dans le Nouveau Testament d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de vouvoiements, et c'est pas la politesse, c'est le pluriel. Donc c'est nous ensemble aussi qui faisons toutes ces choses, et toute la suite, tous les « vous » dans Colossiens, Corinthiens, etc., c'est la même chose. Ce qui fait que, c'est la raison pour laquelle, au moins deux fois, dans Éphésiens 2 et dans Colossiens 3, on parle de l'homme nouveau, et les traductions plus modernes traduisent l'humanité, enfin, la nouvelle humanité, parce que c'est l'homme dans le sens de droit de l'homme, enfin c'est l'humanité. Et cette nouvelle humanité, ben, c'est nous. C'est nous. Éphésiens 2, je mets à l'écran, c'est un chapitre extraordinaire qui parle du salut. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et donc, nous sommes, selon le verset 10, l'ouvrage de Dieu. Vous êtes l'ouvrage de Dieu pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et l'ouvrage, le mot en grec, c'est poema, d'où on a le mot poème. En fait, on peut dire que les êtres humains, enfin, les chrétiens qui forment l'Église, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est le chef-d'œuvre. Donc, si vous voulez voir le chef-d'œuvre, n'allez pas voilà l'océan ou la montagne. Regardez-vous les uns les autres. Ça, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Parce qu'il est en train de refaire un peuple. C'est la nouvelle humanité. Et dans la deuxième partie d'Éphésiens 2, il explique en long et en large comment les Juifs et les païens, vous qui êtes loin, vous êtes prêts, vous formez un même peuple. Parce que la barrière est tombée. Par la croix, par le sang de Jésus, nous avons été rapprochés les uns aux autres, parce que réconciliés avec Dieu pour former la nouvelle humanité. Ce qui fait que la deuxième passerelle pour moi, c'est tout simplement notre vécu communautaire, notre vécu d'Église. Alors quand on parle de passerelle, ça veut dire quoi? On va traverser la passerelle pour aller vers les autres, dans leurs intérêts, dans leurs souffrances, dans leurs joies et dans leurs peines. Et on va les inviter à retraverser la passerelle, en évitant le micro, pour arriver chez nous. Pourquoi ? Phrase que j'aime beaucoup, parce qu'on va leur demander de se promener dans notre paysage. Parce qu'en fait, ils ne connaissent qu'un seul paysage, c'est le paysage sans Dieu. Et là, ils vont voir comment nous, on agit dans notre paysage. Je ne sais pas si vous avez vu, suite à la convention du CNEF, il y avait des articles dans Le Monde, dans Le Figaro et tout ça. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Et je crois que c'est dans Le Monde, sur leur site, ils ont dit, avec surprise, mais chez les évangéliques, quand quelqu'un doit passer un examen ou quand il est malade, on prie. Comme si c'est la chose la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer. Pour nous, non. Mais pour les gens autour de nous, qui se font beaucoup de soucis, qui ne savent pas comment faire, de voir comment nous, on peut vivre ensemble dans notre diversité, est extraordinaire. Parce qu'ils ne voient pas ça ailleurs. Je me souviens d'une jeune femme qui s'était convertie dans notre église de Blanc-Ménil. La première fois qu'elle est venue à l'étude biblique, je ne sais pas pourquoi, on a parlé en long et en large de ce verset qui dit « Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser ». Il y avait tout un discours. Ah, si on le fait, est-ce qu'on va nous prendre pour les homosexuels? Enfin, est-ce qu'il faut le faire aujourd'hui? Plein de discussions autour de ça. Et c'est la première fois que cette fille était venue à l'étude biblique. Alors, je vais poser la question après, ce qu'il a pensé. Il dit « Mais j'ai pas compris grand-chose ». Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand vous discutez, vous écoutez les uns les autres. Je dis, ah, mais même ça, c'est important. On va vivre autrement. On ne vit pas nos réunions comme les réunions de parents d'élèves. Où souvent, on a 5 ou 6 groupes qui parlent en même temps. Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre d'assemblée générale et tout, ça arrive. Nous, on essaie de s'écouter les uns les autres. Et on va essayer de vivre avec nos différences. Il y en a. Parce que où dans l'Église est-ce qu'on voit des personnes de tout âge, enfants, jeunes, gens couples, familles, personnes âgées, hommes et femmes, de différentes origines, de différentes personnalités. Il y a que dans l'Église. Où on peut accepter ces différences qui font partie de notre culture, qui sont partie de nous-mêmes, parce qu'on a une autre identité en Christ. Je reviens à l'expression tout à l'heure, en tant que racheté. Donc, puisque ça, c'est notre identité, on peut accepter les identités secondaires. Et c'est vrai qu'on est très différents les uns des autres. Je me souviens d'un frère, il y a plusieurs années, qui avait accueilli chez lui un jeune converti. Et au bout de deux, trois semaines, il est venu me voir, mais c'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi différent que moi. Et il a dit, le pire, ce matin, je suis passé devant la salle de bain quand il se brossait les dents. Parce qu'en fait, mais tout le monde se brosse les dents de la même façon. Mais non, il tenait la brosse, il bougeait la tête. Mais ce sont des petites choses comme ça qui nous agacent des fois les uns par rapport aux autres parce qu'on est différents. Donc, dans la nouvelle humanité, voilà, Romains 15, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc, ceux qui deviennent chrétiens, on les accepte. On les accueille. On vit, on apprend à vivre ensemble avec nos différences. Et c'est un grand signe de ce que le Seigneur est en train de faire. Autrement dit, si on veut faire comme cela, on va être obligé d'avoir toujours dans l'Église une sorte d'espace d'accueil ou de sas pour que les gens qui ne sont pas chrétiens puissent se sentir suffisamment à l'aise pour venir, pour apprendre ce que nous sommes, ce que nous croyons. Donc ça, c'est le grand défi, et je pense que c'est possible. Je me suis dit, ben, si moi je voulais savoir comment ça se passe dans une autre religion, bon, j'aimerais aller dans la réunion principale de cette réunion. Je dirais pas une conférence sur la foi de bouddhiste, j'aimerais voir comment ils vivent en tant que bouddhistes. Donc, je crois que les gens ne veulent pas avoir une conférence. Que pensent les évangéliques? Ils vont voir comment on vit. Donc, il faut les accueillir, il faut cet espace. Je ne crains pas l'Église multitudiniste, parce que nous avons le baptême, nous avons des statuts de membres et tout ça, qui font que on va pas forcément les considérer, mais je vois quelqu'un qui était dans l'Église du Blanc-Ménil, Rodrigue, connaît Gérard, qui a 7 ou 8 ans, qui venait tout le temps à l'église. Il était plus fidèle que beaucoup de chrétiens. Mais il a fallu du temps avant qu'il comprenne et qu'il se fasse baptiser. Bon, c'était un peu extra, un peu plus long que la plupart, mais c'était, voilà, un cas réel de quelqu'un qui a cheminé avec nous pendant longtemps. Pourquoi, en quelque sorte, est-ce que j'insiste sur cela? Je vais faire une petite parenthèse sur la culture. La culture, je pourrais parler des heures sur la culture, mais la culture, c'est quoi? C'est ce qui semble normal dans un contexte donné. Donc, c'est ce qui est perçu comme normal, ce qui fait que ça nous simplifie la vie. Quand on rencontre quelqu'un, je n'ai pas à me poser la question si je serre la main, ou si je fais un geste comme dans l'Orient, ou si je vais inviter chez quelqu'un, je sais à peu près comment ça va se passer, ou comment il faut s'habiller dans les différentes circonstances. Donc, ça nous simplifie la vie. Mais c'est plus que ça, c'est toute une façon de regarder le monde qui est, qu'on peut dire, véhiculée par l'école, par l'État, par les familles, enfin, c'est, et tout cela, en sociologie, en psychologie sociale, pardon, en psychologie sociale, on appelle ça des structures de plausibilité. C'est-à-dire que, puisque tout le monde dit la même chose, ça devient plus plausible que c'est comme ça. Ok? Je sais pas ce que vous voulez, ce que vous voulez dire. Plausible, ça veut dire, ça me semble normal. Okay? C'est la structure de plausibilité, parce que à la télé, tout le monde part comme ça, le maire dit toujours les choses de la même façon, le maître dit la même chose, enfin, tout le monde part. Il y a certaines choses qui sont transmises comme ça. Et pour nous, l'Église, ensemble, en tant que peuple de Dieu, pour le chrétien, on devient la nouvelle structure de plausibilité. Parce que c'est là où on apprend à vivre en Christ. C'est là où on a d'autres choses qui sont normales. Admettons. Bon, je pousse un peu plus loin. Il y a quelqu'un ici, peut-être, qui est prof. Admettons. Okay. Il y a une réunion, il y a un conseil de classe. Et un enfant qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, que dirait le directeur de l'établissement si vous disiez, ah ben, je crois qu'il faut prier pour lui. Dans ce contexte, on ne peut pas. Donc, parce qu'on ne peut pas dans ce contexte, cette plausibilité que Dieu n'existe pas, qu'il n'a rien à voir, est renforcée. Alors que dans l'Église, c'est autre chose. Parce que là, on va vivre et on a la liberté de vivre comme Christ nous demande. On va se pardonner les uns les autres. On va prier les uns pour les autres. On va louer Dieu. On va penser que c'est normal de ne pas coucher ensemble avant le mariage, des trucs comme ça. Parce que c'est une autre structure de plausibilité. Et donc, quand les gens viennent, et c'est un missiologue qui s'appelle Leslie Newbegin, qui n'est pas complètement évangélique, mais il écrit des choses très intéressantes, elle a dit, il faut surtout pas domestiquer le message, mais c'est difficile parfois de le communiquer, il faudrait que la personne voit la vie comme nous on le voit. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cet espace, que les non-chrétiens puissent cheminer avec nous, on les laisse tranquilles un peu, ils entendent, on est nous-mêmes, on joue pas le jeu, on fait pas du théâtre dans un sens, on fait pas de comédie, on est ce qu'on est. La seule différence, c'est qu'on cherche à éviter le patois de Canaan. Donc, ça, on avait dit tout à l'heure, il faut qu'on soit tous interprètes pour changer le patois de Canaan en français. Donc, il faut apprendre ça. Vous savez ce que c'est que le patois de Canaan? Oui. Les mots un peu à nous. Voilà. Deux petites conséquences de cette Église de la Nouvelle Humanité. J'en ai parlé de l'un ce matin, donc je ne vais pas tellement insister. L'importance du relationnel. Dieu est un Dieu trinitaire, donc relationnel. Pour nous aussi, tout est relationnel. Tout. Moi, je vous affirme ceci. Il n'y a pas un seul commandement dans le Nouveau Testament qui n'est pas relationnel. À la différence de toutes les religions, porter les habits d'une certaine façon, manger d'une certaine façon, etc. Et même quand l'apôtre Paul aborde cette question-là, viande sacrifiée aux idoles, etc., la réponse, c'est ni oui ni non, c'est qu'est-ce que ça va changer dans les relations les uns avec les autres, avec les non-chrétiens, etc. Donc là encore, tout passe par le relationnel. Et au-delà de la convivialité, parce que les non-chrétiens peuvent vivre une convivialité, hein, ça existe. C'est le vrai intérêt porté à l'autre. Donc on porte les fardeaux les uns des autres, tout en portant chacun son fardeau. Ça en Galates 6, c'est intéressant. Et la deuxième chose, c'est de rendre donc le message plausible dans le contexte culturel français. Autre façon de dire, c'est faire rentrer le christianisme dans le champ du possible. J'aime beaucoup cette expression. Faire rentrer le christianisme dans le champ du possible, parce que les gens vont voir que c'est possible, parce que nous le vivons. Et là, bon, il y a la couverture de mon livre « Servir à nos Français », qui est là, si quelqu'un veut l'acheter, ça. Il suffit simplement de laisser de l'argent, un chèque, dans la boîte. Troisième passerelle. On ne peut pas dire que le français ne s'intéresse absolument pas à tout ce qui est spirituel. Ça existe. Il s'intéresse à la spiritualité. Peut-être pas le mot qu'il va utiliser, encore que, il préfère la spiritualité à la religion, parce que la religion perçoit comme quelque chose qui vous impose des trucs de spiritualité. On est libre. Et les gens aiment bien, même dans la postmodernité, c'est mon choix, je veux m'épanouir. Si un week-end dans un monastère m'aide à faire ça, tant mieux, il n'y a pas de problème. Hein. Le spirituel, en tant que tel, n'est pas rejeté. Ça, on le voit de plus en plus. Il y a même des philosophes comme André Comte-Sponville qui dit qu'il est un mystique athée. Bon. Intéressant. Mais la spiritualité postmoderne, il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a deux, trois choses, ou quatre choses là, qui ne sont pas notre spiritualité à nous. D'abord, c'est pas forcément une recherche de Dieu. On cherche pas Dieu, on cherche le bien-être. Donc c'est pas d'abord Dieu, c'est moi. Ok? Que je me sente bien. Deuxième chose, c'est qu'il faut que ce bien-être m'arrive immédiatement, pas d'attente. Toutes les grandes religions depuis toujours ont parlé de discipline spirituelle, enfin tout ça, mais non. La spiritualité postmoderne, je le veux et je veux tout de suite. Et c'est même individuel. On ne cherche pas ensemble. Même en groupe, c'est chacun pour soi. Troisième chose, c'est syncrétiste. Je ne sais pas si vous connaissez le mot syncrétisme. Syncrétisme, ça veut dire on mélange tout. C'est un peu comme si on va dans un supermarché avec un caddie et on dit, tiens, je vais peut-être prendre un petit peu de zen bouddhiste, je mets dans mon caddie, je mets un peu plus loin, un petit peu de catholicisme, c'est bien, un peu plus loin, ah, il y a un article que j'ai lu dans Paris Match, enfin, et on fait sa sauce, sa propre sauce. Et on a même démontré que même, par exemple, dans l'Église catholique, la plupart des pratiquants ont fait leur propre sauce. La plupart ne croient pas vraiment ce que dit le pape, donc c'est chacun qui fait sa propre sauce, donc c'est tout à fait ça. Et la quatrième chose, pour beaucoup, la spiritualité postmoderne ne concerne que cette vie. On ne parle pas tellement de vie éternelle, sauf ceux qui ont adapté le bouddhisme au goût occidental, en pensant que la réincarnation c'est une deuxième chance, alors que dans le bouddhisme classique c'est une punition. Parce qu'on n'a pas réussi à bien vivre sa vie la première fois, donc on est réincarné comme, je sais pas, comme femme ou comme animal ou je sais pas quoi. Non mais je parle du bouddhisme, je parle pas de mes convictions personnelles. Hein, okay. J'ai dit exprès pour. Non mais dans le bouddhisme c'était une punition, alors que certains le voient dans l'Occident comme une chance. Mais en général, on cherche pas la vie éternelle. Et je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on fasse un peu attention des fois que dans nos églises, on ne soit pas complètement influencé par cela en cherchant le bien-être personnel plutôt que Dieu, par exemple. C'est un danger. Ou bien, ne concerne que cette vie. Une fois, j'avais un stagiaire de l'Institut public de Genève qui est des musiciens. On a cherché dans J'aime 1 et J'aime 2, on a trouvé que 4 chants qui parlent de la vie éternelle. C'est pas beaucoup. Pour quelque chose qui est central, en fait, à notre foi. Donc, bon, il y avait beaucoup d'autres chants qui étaient bien, hein, c'est pas ça le problème, mais finalement, on n'a pas tellement parlé de ça. Alors, que la spiritualité biblique, que l'on voudrait essayer de faire passer, c'est pour ça que c'est une passerelle un peu délicate, parce qu'en fait, là, on demande vraiment la repentance dans le vrai sens de changer la vie. D'abord, la spiritualité biblique, c'est le salut. C'est 1 Corinthiens 15, je vous ai annoncé que vous êtes sauvés en croyant que Jésus est mort, enterré, enseveli et ressuscité le troisième jour. Et vous êtes sauvés si vous le retenez dans ces termes. Okay? Donc il y a le salut, le pardon accompli par Jésus pour établir la relation avec Dieu et que cela soit éternel. La deuxième partie de la spiritualité biblique, c'est le relationnel. J'en ai déjà parlé en parlant de la Trinité et en disant que nous aussi, Dieu nous a créés pour l'aimer, pour nous aimer les uns les autres, etc. Et le troisième aspect, c'est d'éliminer la distinction sacré-profane. Qu'est-ce que vous dire par là? Comment expliquer? Je me souviens, j'ai acheté un bouquin une fois dans le quartier latin, philosophie de la religion. La première phrase, j'étais pas d'accord. Parce que c'est marqué, toutes les religions se définissent en faisant la différence entre le sacré et le profane. Donc il y a des trucs spirituels et sacrés que l'on fait, et le reste du temps, c'est profane. Alors que dans la Bible, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Que vous mangez, que vous buviez, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Donc il y a pour utiliser le titre d'un magasin que j'ai vu en Amérique latine, on est chrétien 25 heures par jour. Le magasin disait ouvert 25 heures par jour. Au moins, j'ai retenu le nom du magasin. Non, mais 24 heures par jour, 7 jours sur 7, nous vivons avec le Seigneur. On fait pas de distinction. Alors, que penser de la laïcité? La laïcité peut me dire, si je suis prof, ne parlez pas de Jésus dans la salle de classe. La laïcité ne peut pas m'empêcher de prier pour les enfants qui sont devant moi, dans mon cœur, par exemple, parce que je suis chrétien. La laïcité ne peut pas m'empêcher, en rentrant dans ma salle de classe, d'avoir mes valeurs qui ne vont pas changer. Je pensais à ma fille qui est prof, et récemment, des enfants sont venus la voir en collège pour dire ouais, « Vous êtes notre meilleur prof ». Ah bon ? Et oui, il y a deux choses qu'on aime. D'abord, vous n'utilisez pas de gros mots. Et deuxièmement, vous faites toujours ce que vous dites que vous allez faire. Que ce soit une promesse ou une menace. Donc, les enfants se sentent en sécurité, c'est nos valeurs. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre spiritualité. Donc, toutes ces choses se rejoignent. Parce que finalement, que ce soit la condition humaine, ou la nouvelle humanité, ou notre vie de tous les jours, dans tous les cas, plus on est chrétien, plus en même temps, les gens vont pouvoir voir et comprendre que nous, on n'est pas comme les autres, on a un autre Seigneur. Même, bon, je reviens à cette histoire d'éliminer la distinction sacré-profane, on va dire la vérité. Récemment, ma femme, oui, quelques mois maintenant, a pris un TGV pendant un moment de grève. C'était pour aller à Saint-Malo, où habite notre fils. Et donc, c'était le TGV qui devait desservir Rennes et Saint-Malo. Et on a regardé donc la veille sur Internet pour voir si ce train-là circulait. Et c'était marqué à côté, attention, ce TGV ne dessert pas Rennes. Bon, ça, c'est bizarre, hein. Aller à Saint-Malo sans s'arrêter à Rennes en passant par Rennes. Donc, quand il est arrivé à la gare, elle a demandé au contrôleur, il dit, mais bien sûr, il s'arrête, mais on voulait pas que les gens viennent à la gare. On voulait pas que les gens viennent. Parce qu'on est en grève. Donc, on peut même pas croire ce qui était marqué sur le site de la SNCF. Et j'ai vécu la même chose ce matin. Ils ont parlé du report du match France-Irlande, en disant que la météo n'avait pas annoncé un redout avant le week-end. Mais c'est pas vrai. Jacques Kessler sur France Info a dit, on n'a jamais dit. Mais si, au début de la semaine, il disait, on pense vers la fin de la semaine. On ne peut plus croire à ce que les gens disent. Et nous, en tant que chrétiens, notre parole est notre parole. Une grande partie d'être créé à l'image de Dieu, c'est notre honnêteté, parce que nous parlons. Nous parlons parce que Dieu nous a créés capables de parler. C'est le miracle de tous les jours. Donc ça veut dire que tout comme Dieu peut faire une alliance avec nous, je promets que, nous aussi on peut faire alliance et dire vrai. C'est pour ça que le mariage est tout autre chose que le concubinage, etc. Parce qu'on donne, on parle, on donne sa parole, comme Dieu a donné sa parole. Et ce n'est possible que parce que les êtres humains savent parler. Autrement, on ne peut pas donner sa parole. Et quand au Forum Veritas Indis, j'étais battu avec Pascal Bruckner sur le mariage, j'ai dit ça. Il dit, bon, il faut donner sa parole. Il a dit, et la salle n'a pas aimé. Il a dit, on peut donner sa parole, mais on peut la reprendre. Et même les non-chrétiens qui étaient là n'aimaient pas trop cela. Parce que finalement, ils savent que ce qu'on fait est vrai. Ça peut les embêter, mais ils savent. Je pense que c'est quand même important que l'on soit vrai. Moi, peut-être ça n'a rien à voir, mais j'ai commencé à Paris. Quand quelqu'un saute au-dessus de la barrière, à côté de moi ou derrière moi, j'ai pris l'habitude de faire un grand sourire et de dire « Dieu l'a vu ». Et parfois, j'ai discuté longtemps avec des gens avec ça. Parce qu'ils se disent « mais Dieu pardonne aussi ». Là, avec lequel j'ai discuté longtemps pour l'anecdote, et au bout de 10 minutes, il a sorti, il avait dit qu'il n'avait pas d'argent, il a sorti son portable, sa poche, beau portable. Elle dit, ah, donc vous avez de l'argent. Ah, c'est ma femme qui l'a offert. Elle dit, ben, moi j'ai payé le mien. Elle dit, vous n'avez pas de femme? Alors comme réponse, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, c'est anecdotique, mais... Bon, ok, revenons à notre sujet. La spiritualité biblique, donc, le salut, le relationnel, et on élimine la distinction sacré-profane. On marche avec le Seigneur tout le temps. Voilà. Et comme Henri Blocher l'a dit une fois en parlant du relationnel, il y a une seule chose que le français moyen, disons, qui étonne le français moyen, parce que ça, il n'a jamais entendu, c'est quand on dit « j'ai une relation avec Dieu ». Tout le reste, il pense l'avoir déjà entendu, mais ça, et pourtant, c'est essentiel. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur des remarques sur la passerelle de la nouvelle humanité et de la spiritualité ? Des remarques, des objections, des témoignages, des tout ce que vous voulez. Mon choix est sacré en quelque sorte. Ouais. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est pour cela que, de toute façon, cette passerelle est maniée avec précaution. Parce qu'on sait que les gens cherchent autre chose. Mais quand je pense, là je remonte à quelques années, parce que c'est souvent cité dans les livres sur la postmodernité, la mort de la princesse Diana, en parlant de l'Angleterre, et c'était une sorte de d'émotion spirituelle, en quelque sorte, du peuple anglais, qui venait tous avec des fleurs, enfin, c'était une sorte de manifestation de spiritualité. Alors qu'en France, on n'a pas ce même type d'expression collective de spiritualité. Je pense que c'est beaucoup plus individuel, justement, comme tu viens de le dire, en fait. Donc Régis Debray a certainement vu juste. On l'avait invité d'ailleurs pour le Forum Veritas, mais il n'était pas libre.
Pas beaucoup de monde s'incliner devant ce côté
inconnu. Oui.
Donc c'est un symbole de
la France. Oui.
Tout est un peu abstrait, y compris
chez les chrétiens. Ouais.
On a du mal à rentrer dans le
cercle. Tout à fait. Et ça, c'était une très, très bonne remarque. Je ne sais pas. En fait, j'ai commencé dans notre église un culte de dimanche soir. Beaucoup plus méditatif que ce que l'on fait habituellement dans nos milieux évangéliques le matin. On ne chante pas autant. On essaie d'avoir des temps de silence. C'est un des cultes. J'ai projeté à l'écran une œuvre d'art contemporaine sur l'agneau de Dieu. Donc il y a un agneau avec les pieds, les pattes liées pour le sacrifice, sur un autel qui était constitué d'une pile de journaux. Pour parler du mal en quelque sorte. Donc j'ai projeté cette image à l'écran et on a écouté l'Agnus Dei de Bach pendant que l'on regardait. Et ça, on n'a pas tellement l'habitude dans nos églises évangéliques de faire ce genre de truc. On a un certain style de louange qui peut être bien. Hein, mais j'ai cherché un petit peu le dimanche soir pour certains qui s'y trouvent pas bien une alternative quelque part. Donc pour que le sacré soit un peu réintroduit autrement. Bon, on est au début de cette expérimentation. On n'a qu'une petite poignée, hein, 5 ou 6. Hein, mais bon, on va voir ce que ça donne. Mais c'était justement pour que l'on puisse avoir cette notion de sacré quelque part. Parce que je sais que dans nos églises, j'ai vécu dans plusieurs, on dit on va prendre un moment de silence, quelqu'un va commencer à prier à haute voix. C'est parce que c'est notre spiritualité par défaut, en quelque sorte. Bon, c'est pas mauvais en soi, je suis pas en train de dire ça, mais justement, comment avoir cette notion de sacré, pour pas devenir comme des cathédrales, mais bon. Mais bon. Mais c'est certainement à chercher quelque part. Je vais donner des nouvelles dans 5 ans pour voir ce que ça donne.
Est-ce que tu écris les paragraphes sur la spiritualité postmoderne? Je pense que c'est, enfin, pour moi, ça me semble vraiment un danger dans les églises évangéliques, dans le message évangélique de ces dernières années. J'ai remarqué, on finit aussi par adopter même des pasteurs tout à fait honorables, hein, des évangélistes. Hein, c'est le risque aussi beaucoup pour les évangélistes. Finir par utiliser le vocabulaire du monde, même pour annoncer l'évangile. Jésus vous sauve, vous. Et bien sûr, c'est vrai, mais vous allez connaître la joie, la paix, le bonheur, etc. Et tout de suite, si vous repentez, tu es presque rentré dans ce que tu as dit là avec un message évangélique qui est à la limite de cette façon de voir les choses pour soi tout de suite.
Oui. Ah oui.
Oui. Et il n'y a rien de danger.
Oui. Non, mais je suis absolument d'accord. Et la seule chose à faire, c'est d'expliquer. De parler, d'expliquer les choses. Pourquoi on fait de telle façon. C'est la parole. La parole est sacrée. Mais moi, je suis absolument convaincu que le langage, c'est quelque chose que personne ne comprend. Même les chercheurs ne comprennent pas. Vous cherchez sur Internet, il n'y a aucune vraie théorie qui explique pourquoi on parle. J'ai même trouvé un site de l'université de Toulouse qui disait que c'est comme si l'être humain était programmé pour parler. Mais il n'a pas dit qui a programmé. Mais ça, c'est une autre question. Hein, mais voilà. Bon, ils ont utilisé le mot. Hein. Ok, le temps passe, il reste plus qu'une vingtaine de minutes, donc je vais passer à la quatrième passerelle, où je vais délibérément à contre-courant, parce que j'ai dit, la postmodernité ne croit pas au métarécit. Mais pourquoi il n'y croit pas? Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai. Donc il faut l'expliquer, notre métarécit, qui comprend cinq éléments. La création, Dieu est le créateur. Je suis pas en train de dire comment il a fait, bon ça c'est un autre débat, mais Dieu est le créateur. Il y a eu la rupture, donc l'entrée du péché dans le monde, la chute, comme on dit en théologie, la rédemption en Jésus-Christ, pour ceux qui croient en lui, la situation actuelle où les chrétiens et les non-chrétiens coexistent sur cette terre, ou comme on dit déjà, c'est le déjà mais pas encore, on est déjà sauvé mais pas encore complètement sauvé. Hein? Et puis la vie éternelle. Et voilà, tu reconnais. C'est une fresque dans l'église du Blanc-Ménil, justement. Oui, on ne le voit pas extraordinairement bien, mais c'est un truc qui fait 2050 de long. Je demandais à une jeune artiste de le faire, et qui passe en revue toutes les différentes étapes. Donc on voit à gauche la création, on voit le monde, les étoiles, enfin les planètes, etc. L'entrée du mal dans le monde, on voit un arbre et le premier couple, suivi des tables de la loi. Au milieu, il y a la croix. Vous la cherchez. C'est très noir. Ça traverse l'aube qui commence à poindre, tout à fait au centre. Cette croix plantée dans la terre ocre de Moyen-Orient, parce que c'était un réel événement, hein, c'était pas simplement symbolique. Après, il y a le chemin étroit qui mène à la vie, et on voit tout ce qui est symbolique du Saint-Esprit, colombe et feu pour la nouvelle naissance. Et en dessous, la vie des chrétiens dans ce monde, là, on le voit pas très bien sur l'image, mais il y a un peu de vert pour la croissance, et c'est un peu des maisons, chacun sous son figuier, sa vigne sous son figuier. Puis on va plus loin, il y a l'aile de papillon pour la grande transformation, pour se trouver dans la vie éternelle. Et on retrouve un peu le début de la création, les mêmes couleurs, plus un carré qui représente la Nouvelle Jérusalem, et autour toutes les couleurs des pierres précieuses d'Apocalypse 21-22. Bon. Moi, j'ai utilisé cela souvent dans l'Église pour expliquer l'Évangile. On a fait des cartes postales. J'ai eu une fois l'occasion de donner une à Marie-Georges Buffet, qui était la députée à l'époque. Donc, je pense qu'elle doit toujours la voir sous son frigo, j'espère en tout cas. Donc ça, c'est le sens de l'histoire, à expliquer ces cinq points. Parce que sinon, on ne peut pas éviter de tomber dans le truc « c'est mon choix ». Ce n'est pas mon choix, c'est la réalité. Et donc, il faut trouver les moyens de raconter cette histoire dans notre évangélisation. Alors, j'ai mis pourquoi, alors qu'il y a un refus, ce refus d'un fil conducteur de l'histoire, cette incrédulité à l'égard des métarécits. Bon, d'abord, il y a l'ignorance. Les gens ne connaissent pas. J'ai raconté ce matin. Les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent plus. Ils ne connaissent plus. Pour eux, c'est la pratique religieuse, etc. La deuxième raison pour laquelle, quand on essaie de le dire, que c'est une prétention choquante aux yeux de nos contemporains, d'abord parce qu'on dit, nous sommes en train d'expliquer la véritable explication de la condition humaine. La véritable. Alors que, si vous lisez le préambule de la charte de l'éducation supérieure en France, c'est dit, l'éducation supérieure cherche l'objectivité du savoir et ne peut pas se mettre sous la, un mot comme domination, mais c'est pas ça, la domination des religions, des idéologies, etc. Donc, dégage. Parce que nous, c'est l'objectivité du savoir. Alors que nous, on dit, c'est l'objectivité du savoir. Le pape a essayé de faire cela lors d'un discours il y a quelques années, j'oublie où, en Allemagne, quelque part. Et il a parlé des musulmans et tous les journaux ont commencé à parler de ça, alors que c'était pas le fond. Il disait, il faudrait étudier le christianisme de façon scientifique pour voir s'il n'est pas vrai. On ne croit rien. C'est aussi l'objectivité du savoir. Mais c'est la véritable explication de la condition humaine, mais que les gens ne veulent pas, en plus, parce qu'on est en train de diviser le monde en deux, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors que qui ici n'a jamais entendu un maire prononcer les mots « vivre ensemble » Parce qu'en fait, c'est le grand défi de vivre ensemble. Mais ils craignent que les religions divisent, donc, tension, suspicion. Mais malgré tout, on a plein de raisons pour le dire. Premièrement, tout simplement, pour présenter la vision biblique de l'histoire, comme je viens de dire. Il faut que les gens sachent ces 5 points, et plus. Enfin, les 5 points, c'est le minimum syndical. La deuxième chose, c'est pour s'opposer à l'idée « c'est mon choix ». Imaginez, par exemple, que je rencontre une famille et le monsieur me dit « ah ouais, moi, monsieur, le dimanche matin, je fais la grasse mat. Ma femme, elle fait les courses, elle aime le marché. Mon fils, il fait du vélo et ton truc à toi, c'est la louange. » C'est très bien. Mais c'est pas ça. C'est pas parce que j'ai une préférence pour la louange que je me lève le dimanche matin. C'est pas ça. C'est parce que cette louange n'a de sens que lorsqu'on le voit dans le méta-récit de création, chute, rédemption, ma vie sur terre maintenant et l'éternité. Donc si je ne communique pas ça, ma foi n'est qu'un choix comme d'autres. Je fais la grasse mat, elle fait les courses, mon fils fait le vélo. Toi, tu as choisi ça. Mais c'est pas ça. On désamorce dans un sens la critique du prosélytisme, parce qu'on n'est pas en train de dire « je cherche des personnes pour mon église ». Je suis en train de dire la vérité. C'est tout autre chose. J'appelle à la repentance, parce que je demande aux gens de changer d'avis et de pensée pour voir que la Bible raconte la véritable explication de la condition humaine et de la relation avec Dieu. Et puis, ce n'est pas la moindre des choses, même dans l'image, la croix est au centre. Littéralement au centre. Parce que comme Paul a dit, je prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc voilà plusieurs raisons pour lesquelles, même dans une postmodernité qui ne croit pas au méta-récit, on va encore plus expliquer notre méta-récit, notre sens de l'histoire, le fil conducteur de l'histoire que donne la Bible. Alors, pour terminer, 2 propositions d'outils qui vont dans ce sens-là. Donc, le premier, je m'excuse à l'avance si c'est moi qui l'ai fait, mais donc j'ai fait ce DVD « Passerelle vers Dieu ». Il y a quelques-uns là-bas où j'ai aussi de la pub que vous pouvez garder. C'est quoi? C'est un peu comme le parcours Alpha, sauf que d'abord, il y a 6 rencontres et pas 12. Et 12 est un peu long en France. Deuxièmement, on ne suppose aucune connaissance. Alors que pour moi, le parcours Alpha est... s'adapte bien à certains catholiques qui ont connu le catéchisme et qui ont quelques connaissances. Là, on suppose rien du tout, aucune connaissance biblique. Donc, on est en amont. Troisième chose, c'est qu'on ne parle que de l'Évangile. On ne cherche pas à apporter des éléments de discipulat. On ne parle que de l'Évangile. C'est Création, chute. Non, pardon. Est-ce que Dieu existe? Création, chute. Qui est Jésus? Sa mort, sa résurrection. Ça, c'est les six séances. Et quatrièmement, c'est Made in France. Il y a en fait des petits films, enfin tout ça a été réalisé en France. Comment ça se passe une soirée? Un peu comme Alpha dans ce sens, mais on commence avec un repas, un apéritif dînatoire, un buffet, quelque chose comme ça. Ensuite, on regarde un court-métrage pour situer le questionnement dans notre contexte français. Ensuite, on regarde... C'est en DVD. Tout, c'est clé en main. 15 euros. Et avec un petit livre dedans qui explique. Plus un site internet qui donne plein d'autres éléments aussi. Donc après, il y a aussi sur le DVD 10 minutes d'explication par un jeune pasteur parisien, Mathieu Sanders, de la rue de Sèvres, qui explique bibliquement le sens de ce qu'on vient de voir. Et après, on met les gens en petits groupes de discussion et les questions sont déjà dans le livret. Je l'ai fait plusieurs fois dans mon église. J'ai du mal à faire partie des gens. On les met en petits groupes pour discuter. Ça y va. Je suis très content d'ailleurs parce que depuis quelques mois, il y a de plus en plus d'églises qui utilisent ce DVD. Enfin, c'est un concept, si on veut. Le site s'appelle d'ailleurs Concept Passerelle plutôt que méthode. C'est pas une méthode, c'est un concept. Et le deuxième outil possible, c'est une exposition biblique que j'ai eu le privilège aussi de participer à sa création, qui s'appelle De la parole à la peinture. Quelle est la différence? Donc, dans le comité qui a créé cela, on s'est dit, on veut une exposition biblique qui soit moderne, transportable pour aller dans les églises, qui raconte l'histoire biblique, donc le méta-récit, et qui soit acceptable dans un cadre laïque. Donc, on a mis la barre très haute. Et voilà ce qu'on a créé. Il y a 20 panneaux, ils sont pas bien exposés là parce que normalement on les met pas en ligne comme ça, avec des reproductions de grandes peintures de toutes les époques. Ce qu'on ne dit pas forcément aux visiteurs, c'est que ça commence avec Genèse et ça va jusqu'à l'Apocalypse. Donc en suivant les panneaux, ils vont avoir l'histoire biblique. Pourquoi moderne? Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles écrites, ça se visite avec un audio guide. Donc on se met devant le panneau numéro 1, on fait bon, c'est 0-1, comme la visite d'un château de la Loire, et on a le commentaire qui explique la peinture et le sens biblique. Et l'astuce, ça veut dire que quand on donne l'audio guide, on peut le programmer pour avoir le commentaire adulte ou ado ou enfant. Donc toute une famille peut visiter avec un commentaire adapté à leur âge, ce qui est intéressant. C'est transportable parce que tout se met dans des petits... ça s'enroule, donc c'est assez facile à transporter. Et c'est adapté même à une situation de laïcité parce qu'on a veillé au texte pour ne rien dire d'opposable. Je veux dire par cela, on ne va pas dire « Jésus est mort pour vos péchés ». On va dire, les chrétiens croient que Jésus est mort pour leurs péchés. C'est une petite différence, ça ne change rien pour la communication, sauf que personne ne peut dire que c'est le contraire. C'est ce qu'on croit. Donc c'est on l'a fait par exemple, je me souviens, une église l'a fait au syndicat d'initiative d'une ville en Bourgogne, et c'était les hôtesses du syndicat qui donnaient les audioguides aux visiteurs, c'est même pas l'église. Donc c'était super. Voilà, donc j'ai une pub pour toi, mais je n'avais plus. Donc, pas le pas à la fin. D'abord, c'est informer sur le méta-récit. Mais on peut mettre tout ce qu'on veut à la fin. Hein. On peut offrir un café gratuit, on peut faire... Non, on va faire ça dans notre église la Semaine Sainte, cette année, à Paris. Voilà, je termine avec ce verset d'Apocalypse 3, 8, parce que je trouve que c'était un grand encouragement. Voici, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bon, on a peu de puissance dans quel sens? En France, on n'a pas accès aux médias. Pas tellement. Donc on n'a pas beaucoup de moyens, si on veut. Je ne pense pas qu'il s'agit de puissance spirituelle, mais on n'a pas beaucoup de moyens d'annoncer l'évangile, mais si on garde sa parole, si on ne renie pas son nom, il y a une porte ouverte, et dans le Nouveau Testament, c'est toujours pour l'évangile, la porte ouverte, que personne ne peut fermer. Amen.